Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 28 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord les titres. En RDC, de violents combats jeudi entre l'armée et les rebelles du M23 près de la stratégique route nationale 2. Au Sénégal, des ONG pressent le président Macky Sall de lever le doute sur une éventuelle candidature en troisième mandat en 2024. En Guinée, 9 opposants sous contrôle judiciaire après les manifestations anti-juntes de la semaine passée. En Ouganda, le fils du président Museveni assure qu'il sera certainement président après son père. 2 Palestiniens tués par les forces israéliennes dans le secteur de Naplouse en Cisjordanie. La Corée du Nord tire un missile balistique non identifié selon l'armée sud-coréenne. L'oiseau est libre, tweet Elon Musk en annonçant jeudi soir la finalisation de son rachat de Twitter. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, de violents combats ont eu lieu hier entre l'armée et les rebelles du M23 près de la route nationale 2, un axe stratégique reliant Goma, chef-lieu du Nord Kivu, aux autres villes de la région et à l'Ouganda, Jacques Aristide.
Après plusieurs semaines d'accalmie, les affrontements ont repris il y a une semaine sur le territoire de Rutshuru, provoquant de nouveaux déplacements d'habitants. Aucun bilan n'était disponible hier, mais les habitants faisaient état des dimanches de moins 10 morts et de dizaines de blessés. Sur le front diplomatique, les États-Unis exigent des groupes armés qu'ils mettent fin à leurs attaques. Nous appelons également les acteurs étatiques à cesser de soutenir ces groupes, notamment l'aide apportée par les forces de défense rwandaises au M23, a déclaré le diplomate américain Robert Wood lors d'une réunion sur la région des Grands Lacs. Nous saluons la position claire du gouvernement américain contre le soutien que le Rwanda apporte au M23. Les autres pays devraient lui emboîter le pas, a réagi Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais. Depuis des mois, Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23, ce que le Rwanda continue de nier.
Des organisations sénégalaises demandent au président Macky Sall de dissiper le doute et de déclarer ouvertement qu'il ne briguerait pas en troisième mandat en 2024. Abdourahmane Dia.
Dans une déclaration publiée hier jeudi, des organisations de défense des droits humains et de la démocratie, dont Africa Jom et Rado, rappellent qu'ailleurs en Afrique, par le passé, le forcing pour un troisième mandat a eu des conséquences particulièrement tragiques. Elles disent vouloir éviter un scénario du chaos au Sénégal. Pour éviter une telle catastrophe dont les conséquences pourraient être encore plus dramatiques que le bilan de 2012, nous vous invitons, Monsieur le Président, à faire une déclaration ouverte pour lever tout équivoque, écrivent ces organisations. La limitation des mandats à 2 est sans équivoque et définitivement ancrée dans la loi fondamentale, déclare-t-elle, appelant le Président au respect pour la parole donnée. Le président Macky Sall avait promis de se prononcer après les élections législatives de juillet dernier. En 2012, la candidature d'Abdoulaye Wade à un troisième mandat avait provoqué des violences qui avaient fait plusieurs morts.
Sénégal toujours, le gouvernement a invoqué le secret défense jeudi pour justifier un contrat d'achat d'armes passé pour le ministère de l'Environnement avec une société dirigée par l'homme d'affaires nigérien Aboubakar Ima, mis en cause dans des marchés d'armement douteux, selon le consortium de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project. Outre le secret défense, le porte-parole gouvernemental Abdulkarim Fofana a aussi parlé de la nécessité d'un équipement de qualité face au développement des mouvements terroristes et au trafic illicite de bois dans les zones frontalières et stratégiques. Au Mali, la police nationale et la protection civile sont officiellement militarisées selon une loi publiée jeudi dans le journal officiel et adoptée à l'unanimité par le Parlement de transition de la junte au pouvoir. Cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal, avait expliqué le gouvernement en Conseil des ministres, dans une allusion aux groupes armés rebelles et djihadistes. Sahara occidental, dans une résolution adoptée jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les parties au conflit à reprendre les négociations pour permettre une solution durable et mutuellement acceptable. Nani Talani.
L'objectif est de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable dans la perspective d'une autodétermination du peuple du Sahara occidental, souligne l'ONU tout en exhortant les parties à coopérer pleinement avec sa mission dans la région. Le Maroc salue la résolution, estimant qu'elle conforte le soutien massif de la communauté internationale en faveur de l'initiative d'autonomie marocaine. Le Front Polisario, lui, dénonce l'inaction continue du Conseil de sécurité face aux tentatives du Maroc d'imposer un fait accompli dans les territoires occupés de la République sahraoui, autoproclamée par le Polisario. Cela ne laisse d'autre option au peuple sahraoui que de continuer et d'intensifier la lutte armée légitime pour défendre son droit non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance, a déclaré le Front Polisario. Le Front regrette que les États-Unis, rédacteurs du texte, aient dévié de leur position de neutralité. Washington, pour sa part, regrette l'absence d'unanimité lors du vote qui a recueilli 13% pour, avec les abstentions du Kenya et de la Russie, qui dénoncent un texte pas équilibré. Pour Moscou, il est peu probable que la résolution permette de faciliter une reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario.
En Ouganda, Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, a assuré jeudi dans un tweet qu'il sera certainement président à la suite de son père. Aucune surprise pour les observateurs, même si Kainerugaba, 48 ans, avait déclaré en 2013 que l'Ouganda n'est pas une monarchie. La seule façon que j'ai de remercier ma superbe mère est de devenir président de l'Ouganda, et je le serai certainement, a-t-il tweeté jeudi. Le 18 octobre, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, avait pourtant déclaré que son fils ne tuterait plus sur les affaires du pays après que ce dernier a menacé dans un tweet d'envahir le Kenya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine pose un risque fondamental pour la sécurité des États-Unis des décennies à venir, tandis que la Russie représente une menace aiguë. C'est ce qu'a affirmé hier le Pentagone dans sa nouvelle stratégie de défense qui fixe la stratégie de l'armée américaine pour les années à venir. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après le ministre de la Défense, Lloyd Austin, Pékin est le seul concurrent qui ait à la fois l'intention de modifier l'ordre international et de plus en plus les moyens de le faire. Il ajoute que contrairement à la Chine, la Russie ne représente pas une menace systémique pour les États-Unis à long terme. Selon M. Austin, la Russie est plutôt une menace immédiate et vive pour les intérêts et les valeurs américains. La nouvelle stratégie de défense, publiée pour la première fois, en même temps que la nouvelle posture nucléaire et la nouvelle posture antimissile des États-Unis, évoque les pressions de Pékin sur Taïwan. Washington craint que la Chine n'accélère le calendrier en vue de sa réunification avec l'île. Le Pentagone note cependant qu'un conflit avec la Chine n'est ni inévitable ni désirable. Les États-Unis considèrent que les armes nucléaires sont destinées à dissuader toute forme d'attaque stratégique, y compris conventionnelle. Le document précise que Washington n'envisagera l'usage de l'arme nucléaire que dans des circonstances extrêmes pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis, de leurs alliés et de leurs partenaires.
Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a prévenu jeudi le président russe Vladimir Poutine, estimant que le conflit en Ukraine était l'illustration de la lutte contre ce qu'il a appelé la domination occidentale. La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié vers la mer du Japon, a annoncé vendredi sans autre détail l'armée sud-coréenne sur fond de crainte d'un nouvel essai nucléaire de Pyongyang. Ce tir intervient tout juste après une rencontre entre le vice-ministre des Affaires étrangères des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, qui se sont engagés à renforcer leur dissuasion dans la région. Deux Palestiniens ont été tués tôt ce vendredi par des forces israéliennes dans le secteur de Naplouse, ville sous haute tension dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont indiqué des responsables palestiniens. L'armée israélienne avait indiqué dans la nuit avoir reçu des informations à propos d'une attaque armée visant une de ses bases près de Naplouse et perpétrée depuis un véhicule en circulation. Les soldats ont identifié deux véhicules suspects et ont répliqué en ouvrant le feu en leur direction, a ajouté l'armée, précisant que des personnes avaient été atteintes par ces tirs. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a tweeté hier soir « L'oiseau est libre » en référence au surnom de Twitter, l'oiseau bleu, après avoir pris le contrôle de la plateforme qu'il a acquise pour 44 milliards de dollars, 6 mois après que son offre a été acceptée et de nombreux rebondissements. Musk a immédiatement licencié le patron Parag Agrawal et 2 autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, selon des sources anonymes de la chaîne CNBC et du Washington Post. La Minute Éco, Nanit Talani.
Pour contrer sa grave pénurie d'eau et couvrir ses besoins alimentaires, l'Égypte envisage de cultiver du blé, du riz et d'autres cultures stratégiques au Congo-Brazzaville. Les autorités congolaises ont alloué 20 000 hectares de terres arables au Caire, dans la ville de Mossendjo, pour y réaliser ce projet, selon Chérif Al-Gabali, chef de la commission parlementaire égyptienne des affaires africaines. Dans le cadre de l'accord, l'Égypte rapatriera 60% des récoltes, tandis que les 40% restants iront au Congo. La société étatique algérienne Sonatrach annonce avoir signé un contrat de près de 400 millions d'euros avec la société italienne Tecnimont pour une usine d'extraction de gaz de pétrole liquéfié dans le Sahara algérien. La capacité de traitement prévisionnelle de cette usine est de 10 millions de mètres cubes par jour de gaz associé, permettant la production de 1000 tonnes par jour de gaz de pétrole liquéfié, 300 tonnes par jour de condensat et 8,7 millions de mètres cubes par jour de gaz pour un délai de réalisation de 36 mois. Terminons par l'Africa Investment Forum qui s'apprête à organiser ses Market Days 2022 du 2 au 4 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Parmi les secteurs prioritaires, il y aura les industries créatives, des projets dans la mode, le cinéma et le textile, ainsi que les transactions dans la communication et l'infrastructure numérique.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le nouveau pays hôte de la CAN 2025 sera connu le 10 février 2023.
Oui, la CAF dit avoir envoyé un courrier à toutes ses associations membres expliquant que les pays intéressés par l'accueil de la compétition en 2025 ont jusqu'au 11 novembre pour remplir et lui adresser un formulaire de déclaration d'intérêt. Les documents justificatifs des moyens d'accueil de la CAN 2025 doivent être envoyés à la CAF au plus tard le 16 décembre. Entre le 5 et le 25 janvier, des visites d'inspection sont prévues dans les pays qui auront déposé leur candidature avant le choix du ou des pays hôtes qui se fera à l'issue de la réunion du comité exécutif le 10 février. La CAF dit encourager la co-organisation et pour rappel, la CAF a retiré l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée pour cause de retard dans les travaux.
NBA, le président des Toronto Raptors a été mis à l'amende par la NBA.
Masai Ujiri a été condamné à une amende de $35 000 par la NBA pour s'être approché de la table des marqueurs et avoir tenu des propos inappropriés envers un officiel du match. L'incident s'est produit lors de la défaite 112-109 de Toronto contre le Miami Heat samedi dernier. Masai Ujiri, né en Angleterre de parents nigériens, est devenu président des Toronto Raptors en 2016. Il a contribué au premier titre des Raptors en 2019. Les Raptors sont à la recherche d'une 9e qualification pour les playoffs en 10 saisons.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, après la manifestation du 20 octobre dernier, plusieurs personnes arrêtées sont transférées dans des prisons de Moussoro et Korotoro sans être présentées à un juge. D'autres, enlevés à domicile pendant et après la manifestation, sont portés disparus. Leurs parents n'ont pas de leurs nouvelles et lancent un appel aux organisations de la société nationale et internationale pour les aider à faire la lumière sur leur sort. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Le vendredi à 6h du matin, les gens sont rentrés chez moi, ils ont cassé la porte et ramassé 3 de mes enfants. Alors depuis vendredi, je n'ai pas vu la trace de mes enfants. Si quelqu'un arrive à trouver même le corps,
c'est le cri d'alarme de Berkoubouaï, agent génie sanitaire à la retraite. Comme lui, beaucoup de parents sont également dans l'impasse totale et lancent un appel à la communauté internationale et aux organisations de la société civile en ces termes.
Mon enfant, là, il faisait gardiennage dans un bar et chaque matin il rentre. Donc, très tôt, les militaires sont partis les ramasser. Ils n'ont emporté ni corps comme ça. Depuis le 20, 6 heures qu'ils l'ont pris à domicile, là, il n'est pas.
Mon mari, c'est un maçon. Comme il a écouté que les gens manifestent, il a dit qu'ils vont venir à la maison pour voir les enfants. C'est de là qu'on a pris. On a pris le renseignement comme ça, on n'a pas pu trouver. Les enfants pleurent toute la journée comme ça. Il s'appelle Nadi Samson. Père de 3 enfants et j'ai encore la grossesse pour 6 mois.
En date du 20, il y a les portes de l'eau qui ont fait irruption chez mon papa. Ils ont arrêté mon papa et mes 2 petits frères et ses 2 locataires. Donc, en tout, il y avait 5 personnes.
Quelques jeunes arrêtés avant, pendant et après la manifestation en transfèrement vers Moussourou et Korotoro ont réussi à échapper de justesse. Ils témoignent au micro de VOA Afrique.
Le 21 octobre, devant la portail, ils sont venus nous ramasser dans un véhicule militaire. C'était environ vers les 16h. Et après, on nous a conduit au camp GNT. On nous a emportés dans un autre véhicule militaire. On a dépassé Moussoro en allant maintenant vers le Salal. Il y a les militaires qui nous surveillent, mais il y avait un peu de vent avec les secousses. On a tenté de sauter sur le véhicule. Il y a les petits même parmi nous, 13 ans, 14 ans même sont là.
Moi, j'ai été arrêté le 19 octobre devant le siège des transformateurs. On a fait 2 jours. Troisième jour, 23h, ils nous ont embarqués. On est presque 200 quelques personnes, direction vers le nord. C'est là que j'ai pris le risque, j'ai sauté par derrière. Il y a aussi un ami qui a sauté. Et c'est comme ça qu'hier nuit, on est arrivé en N'Djamena à 20h.
Les organisations de la société civile tchadienne se disent très préoccupées par cette situation qui rappelle une époque sombre. Maître Delphine Kim, le Lumdiraibé, avocate principale du PILC.
Ces événements confirment le terrorisme d'État dénoncé par les organisations signataires de cette déclaration. Celle-ci exige la publication de la liste de tous les détenus ainsi que leur lieu de détention afin de situer les familles en larmes. Que la lumière soit faite sur toutes les personnes portées disparues depuis le 20 octobre 2022.
Et c'est dans ces conditions que les dirigeants de la CEAC ont désigné mardi le président congolais Félix Tshisekedi, facilitateur dans la crise tchadienne. En sa qualité du président en exercice de cette organisation sous-régionale, M. Tshisekedi avait qualifié les événements du 20 octobre de dérapage dramatique avant de déplorer que le consensus espéré avant le dialogue national inclusif qui était censé planter le décor d'élections démocratiques semble avoir volé en éclats. André Kotmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad sur 93.1 FM.
L'économie américaine a retrouvé la croissance au troisième trimestre sur les trois mois de juillet à septembre. Le produit intérieur brut des États-Unis a progressé de 2,6% en rythme annualisé, selon la première estimation du département du commerce publiée jeudi. La première économie du monde est donc en croissance pour la première fois depuis le début de l'année 2022 et le rebond est plus fort que prévu. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint Jean-François Seznec, politologue et économiste. Il est chercheur pour le think tank Atlantic Council et pour le Middle East Institute.
C'est peut-être un peu moins bon comme nouvelle pour la Réserve fédérale qui va peut-être être obligée de continuer à augmenter ses taux parce qu'ils vont voir cette croissance comme étant une cause de l'inflation. Donc il y a du pour et du contre, si vous voulez.
Est-ce que ce rebond offre un répit aux ménages?
Ben oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a une légère croissance, mais il y a aussi un niveau d'emploi qui est excellent, qui n'a jamais été atteint. Et donc, c'est une bonne chose pour les ménages, parce que tout le monde peut trouver du travail. Bien sûr, il y a cette inflation tenace qui diminue les moyens des ménages, mais c'est une bonne chose quand même. Le seul problème, c'est que ça fait monter les taux d'intérêt pour les hypothèques, augmenter au-dessus de 7%. Donc, ça va empêcher beaucoup de familles d'acheter des maisons ou bien de refinancer à des taux intéressants. Donc, il y a du pour et du contre. Dans un sens, on voit que l'économie est quand même fondamentalement très bonne. Mais d'un autre côté, ça va commencer à créer des problèmes sur ce qui va se passer dans les 12 mois qui viennent.
Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis s'éloignent de la récession?
Non, malheureusement, je pense qu'en fait, on recule pour mieux sauter, si vous voulez, parce que je pense qu'avec cette croissance, comme je vous le disais là tout de suite, je pense que les taux d'intérêt vont monter et ça va faire beaucoup plus de mal à l'économie à long terme. Donc, je ne pense pas qu'on puisse éviter la récession. Alors peut-être que simplement, ça veut dire que la récession ne sera pas aussi grave que l'on pouvait s'y attendre. Et ça, ce serait une très bonne chose.
Dans quelques jours, les États-Unis auront des élections de mi-mandat. Est-ce que ça peut créer un effet positif?
Malheureusement, les gens ont déjà décidé. Hein. Je vous dirais franchement, beaucoup de gens ont déjà voté. Moi, j'ai déjà voté. Je pense que beaucoup de gens savent exactement pour qui ils vont voter déjà. Donc, je ne pense pas que ça change énormément de choses parce que les gens voient que l'économie est quand même bonne en ce moment, mais tout le monde a peur du futur. Donc, je ne pense pas que ça change vraiment ce qui va se passer aux élections.
C'était l'économiste Jean-François Seznec, chercheur pour le think tank Atlantic Council et pour le Middle East Institute. La Russie a lancé son exercice nucléaire annuel sur le fond de rhétorique accrue de Moscou faisant allusion à une éventuelle utilisation d'une arme nucléaire contre l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a averti Moscou que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques contre l'Ukraine serait une très grave erreur, comme le rapporte Cindy Stein, grand reporter de la VOA. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
La Russie a répété sa réponse à une attaque nucléaire mercredi lors d'exercices annuels impliquant des sous-marins nucléaires, des bombardiers stratégiques et des missiles balistiques sous le regard du président Vladimir Poutine par liaison vidéo. Ces derniers jours, le Kremlin accuse l'Ukraine, sans preuve, de planifier la libération de matières nucléaires avec une soi-disant bombe sale capable de provoquer des morts massives et une contamination radioactive. Lorsqu'on lui a demandé si la Russie se préparait à lancer une telle attaque et à rejeter la faute sur l'Ukraine, le président Joe Biden a répondu.
La Russie commettrait une erreur incroyablement grave si elle utilisait une arme nucléaire tactique. Je ne vous garantis pas encore qu'il s'agit d'une opération sous fausse bannière. Nous ne savons pas. mais ce serait grave, très grave.
Mercredi, à la Maison-Blanche, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré ceci.
Nous n'avons vu aucune indication que les Russes se préparent à l'utilisation d'une bombe sale ou, très franchement, à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, et il est important d'aller de l'avant.
Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Rechnikov, a affirmé qu'il ne croyait pas que Poutine utiliserait une arme nucléaire contre son pays.
Mon opinion personnelle, il n'utilisera pas l'arme nucléaire. Ils ont fait beaucoup de choses stupides, mais ils ont continué à être pragmatiques.
Pendant ce temps, aux Nations Unies, le chef des secours d'urgence, Martin Griffiths, s'est dit relativement optimiste quant à la prolongation d'un accord négocié par l'ONU permettant une reprise des exportations ukrainiennes de céréales de la mer Noire au-delà de la mi-novembre. Griffiths a déclaré que l'accord était dans l'intérêt économique de tous, y compris de la Russie.
Ce n'était pas censé à l'époque être une opération entièrement humanitaire. Nous avons clairement compris et je pense qu'il a été confirmé que cette exportation assez élaborée et importante à travers la mer Noire a eu un impact humanitaire sur les prix, sur les quantités et sur la confiance. Et donc, il fait ce que nous avons négocié.
Les Nations Unies s'efforcent de prolonger l'accord jusqu'à un an et d'accélérer les inspections conjointes des navires par des responsables onusiens, turcs, russes et ukrainiens. L'ONU a récemment signalé un retard de plus de 150 navires. L'accord sur les céréales est crucial pour de nombreux pays en développement, car l'invasion de l'Ukraine par la Russie est maintenant entrée dans son 9e mois.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden et le président israélien Isaac Herzog se sont rencontrés cette semaine à la Maison-Blanche. Les deux chefs d'État ont discuté de la menace iranienne et notamment du soutien de Téhéran à l'invasion russe de l'Ukraine. Israël a refusé la demande de Kiev de fournir des systèmes de défense antiaérienne pour les protéger des drones fournis par l'Iran ciblant les Ukrainiens. Un sujet de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Bedakuswara. Le récit est de Claire Moret-Gibourg.
Le président américain Joe Biden et son homologue israélien Isaac Herzog ont discuté de plusieurs problèmes de sécurité lors de leur réunion et notamment de la menace posée par l'Iran.
Je pourrais le répéter 5000 fois au cours de ma carrière. L'engagement des États-Unis envers Israël est à toute preuve basé sur nos principes, nos idées, nos valeurs.
Pour le président israélien Herzog, la menace iranienne va au-delà d'Israël.
On se dirige vers l'utilisation d'armes nucléaires et d'armes létales qui tuent des citoyens innocents en Ukraine.
Des responsables ukrainiens et occidentaux ont confirmé que la Russie avait mené des frappes avec des drones d'attaque iraniens sur toute l'Ukraine. Kiev a demandé à Israël de fournir des systèmes de défense aérienne tels que le dôme de fer qui pourrait contrer ces frappes bien qu'Israël ait refusé. Joe Biden ne fait pas pression sur le président Herzog pour qu'il change la position d'Israël, a déclaré à VOA le conseiller en communication stratégique du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.
Ils ont parlé aujourd'hui de l'Ukraine, bien sûr. Nous discutons avec des pays du monde entier de ce que nous pouvons faire collectivement pour soutenir l'Ukraine et certainement de ce qu'ils sont prêts à faire pour soutenir l'Ukraine. Mais cela doit être leur décision.
Israël a condamné l'invasion russe, mais a jusqu'à présent limité son aide à l'Ukraine à l'aide humanitaire. Avec la présence militaire russe en Syrie, Israël doit se coordonner avec Moscou pour éviter de frapper les forces russes alors qu'ils ciblent les bases iraniennes de missiles en Syrie et notamment les cargaisons d'armes iraniennes destinées à des groupes adverses. Jonathan Lord est directeur du programme de sécurité Moyen-Orient au Centre pour une nouvelle sécurité américaine.
They're focused on not antagonizing.
Ils se concentrent sur le fait de ne pas contrarier Moscou afin qu'ils puissent continuer à protéger leurs propres frontières contre des armes qui pourraient tomber entre les mains du Hezbollah et d'autres acteurs.
Le président Biden a également salué l'accord négocié par les États-Unis entre Israël et le Liban pour mettre fin à leurs différends sur la frontière maritime, permettant à Beyrouth, à court d'argent, d'explorer des puits de gaz offshore. Pour contrer la menace iranienne, les présidents Biden et Herzog ont également discuté des plans facilités par les États-Unis pour un système régional intégré de défense aérienne entre Israël et ses voisins des États du Golfe.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.